morning edition from NPR News.
Bad cities and people housing.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, à 10 jours de l'ouverture de la COP26, allons voir qui dans le monde a des choses à montrer, des progrès au-delà des promesses, des politiques de décarbonisation, des pourcentages d'énergie renouvelable. Qui se cache derrière une politique environnementale peinte en vert? Qui avance dans la bonne direction? Trois exemples, trois pays que vous découvrirez dans un tout petit instant. Le bruit du monde ce soir est au Costa Rica et c'est le quatrième pays ce soir qui nous intéresse pour sa politique environnementale présentée comme un modèle, un état vert. Vous verrez que ça n'est pas sans mal. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Sébastien Legénie a trouvé un hashtag Arabs Live Matter qui prend de l'ampleur en Israël, un robot arrêté en Égypte et un concours de ballons de baudruche. Absolument. En 18h50, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, et Angélique Boin au Conseil européen où se tient en ce moment même un sommet des chefs d'État et de gouvernement. On parlera beaucoup de Pologne, bien sûr, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres sujets qui sont intéressants. 18h55, le monde d'après de Claude Guibal en Syrie, où l'attentat d'hier montre à quel point la guerre n'est pas finie. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
À 10 jours donc de l'ouverture de la COP26, journée pour le climat sur France Inter, nous avons voulu aller voir donc dans certains des pays qui s'engagent et sont pleins de promesses de décarbonisation, ce qu'il en est réellement. Notre petit voyage va nous emmener en Norvège, en Inde et dans le pays hôte, la Grande-Bretagne. C'est avec vous qu'on commence. Bonsoir Richard. Bonsoir Richard Place.
Bonsoir.
Alors, je ne sais pas si l'Écosse apprécierait d'ailleurs vraiment que je dise la Grande-Bretagne pays hôte, mais enfin, c'est un autre sujet. En attendant l'Écosse, on va y venir d'ailleurs avec son immense parc éolien. Richard, avant cela, Boris Johnson a annoncé, c'était hier ou avant-hier, une énergie décarbonée d'ici 2035. Alors, est-ce que c'est une annonce un peu vide qui lance la COP26 de Glasgow ou est-ce que c'est une ambition réelle et réaliste?
Alors, vous savez ce qu'on dit des promesses, Fabienne,
allez-y,
de ceux
oui.
qui les font, de ceux
et
qui
ceux
les
qui
croient.
Les
voilà, c'est peut-être encore un peu plus vrai quand on parle de Boris Johnson. Et puis, 2035, ça paraît bien loin. Mais en effet, il a fixé un cap et il aligne des investissements au montant impressionnant, comme son programme pour décarboner les bâtiments, 4,6 milliards d'euros quand même, et puis des centaines de millions d'euros promis pour développer les véhicules électriques, la capture et le stockage du CO2 pour rendre le pays plus écolo. Il veut être l'exemple à suivre pendant cette COP, sa COP. Il en parle beaucoup depuis que le G7 est passé et qu'il l'a organisé aussi d'ailleurs. On parle de plus de 13 milliards d'euros d'investissement quand même, de quoi donner le tournis. Johnson se veut un champion de la lutte contre le changement climatique. Il en fait beaucoup, c'est souvent le cas pour les convertis tardifs. Il faut se souvenir qu'il y a 10 ans, il était climato-sceptique et il se moquait des éoliennes. Aujourd'hui, il dit que le Royaume-Uni doit devenir pour l'éolien ce que l'Arabie Saoudite est pour le pétrole. Le Premier ministre ici est toujours enthousiaste et déterminé, au moins dans ses postures et ses déclarations. Il en profite d'ailleurs pour glorifier le Brexit, encore une fois, dans ce cas précis, c'est la liberté retrouvée qui permettrait de négocier des accords ambitieux, de créer des dizaines de milliers d'emplois dans le nord de l'Angleterre, par exemple, où il veut faire fabriquer les batteries électriques des voitures à l'endroit même où l'industrie automobile s'est effondrée ces 30 dernières années. En décembre dernier, l'ancien journaliste, devenu patron de la majorité et Premier ministre, avait même repris la plume pour raconter dans le Financial Times ce que serait le Royaume-Uni de demain. Je vous en lis un bref extrait. Vous préparez votre petit déjeuner à l'hydrogène avant de monter dans votre voiture électrique, après l'avoir chargée pendant la nuit à partir de batteries fabriquées dans les Midlands. Autour de vous, l'air est plus pur.
Ok. Alors, quand même, en attendant, Richard, la Grande-Bretagne a une image très charbon, peut-être à tort d'ailleurs. Dites-nous d'abord rapidement, parce qu'on va parler aussi des éoliennes écossaises, dites-nous rapidement, en gros, c'est combien de divisions la Grande-Bretagne, nucléaire, gaz, charbon, avec de vrais progrès ces dernières années, comment ça se découpe?
Oui, des progrès flagrants pour la production d'électricité, c'est indéniable. La part de renouvelables l'année dernière, c'est 43%, donc un peu moins de la moitié de l'électricité consommée ici. C'est de l'éolien, du solaire, du biogaz, c'est 6% de plus que l'année d'avant. La progression est nette et constante sur les 10 dernières années. Ça se fait clairement au détriment des combustibles fossiles qui sont tombés à 38% environ. On parle là majoritairement de gaz naturel. Le fossile, il y a 10 ans, c'était 75% de la production électrique. Pour ce qui est du nucléaire, la proportion reste grosso modo la même, autour de 20%. Notez que le pays veut interdire de produire l'électricité grâce aux centrales à charbon dans 3 ans. En 2020, les autorités se sont réjouies d'avoir pu interrompre totalement cette production pendant plusieurs jours, mais elle reste aujourd'hui nécessaire, en particulier quand il fait très froid.
Et alors, ça c'est les images qu'on verra d'ailleurs toute la semaine de la COP, hein, j'imagine, tous les 15 jours, un parc éolien en Écosse, justement, offshore, l'un des plus ambitieux du monde.
Oui, on peut même parler de superpuissance mondiale dans ce domaine, ce qui paraît dingue puisqu'il s'agit d'un pays de 5,5 millions d'habitants, 7 fois plus petit que la France, mais il y a d'immenses étendues désertiques balayées par les vents et puis il y a la mer du Nord et là ça plante des éoliennes à tout va. Enfin, quand je vous dis ça plante, c'est plus tout à fait exact parce qu'il y a aussi des parcs éoliens flottants maintenant au large des côtes. Les projets se multiplient, plus de 70 compagnies internationales ont déposé des dossiers auprès du gouvernement écossais. Dans 10 ans, le ministre de l'énergie mise sur une production électrique de 11 gigawatts rien que par la force du vent. Ça veut dire de quoi alimenter 8 millions de foyers. C'est même trop, me direz-vous. Les Écossais ne sont pas si nombreux. Mais justement, l'idée, c'est aussi d'exporter, de gagner de l'argent. C'est déjà le cas. 880 millions d'euros l'année dernière exportés grâce à cette énergie.
Alors, une dernière chose, et rapidement, Richard, la Grande-Bretagne est sujette, comme tout le monde d'ailleurs en ce moment, à la flambée des tarifs. Quelle solution, quelle crainte, notamment à l'entrée de l'hiver, parce que ça s'est déjà vu chez vous, qui risque de mettre toutes ses bonnes intentions devant un difficile principe de réalité.
Exactement, la flambée des tarifs frappe déjà le pays. 12% d'augmentation au début du mois pour le gaz, mais les prix pour les particuliers sont plafonnés. Les fournisseurs d'énergie ne peuvent pas intégralement répercuter les hausses de coûts. Ils ont bien demandé et ils demandent encore la levée de ces plafonds, mais le gouvernement refuse fermement. Le message est clair, nous protégeons les citoyens, pas les entreprises. Résultat, plusieurs compagnies ont déposé le bilan, les plus fragiles, les plus petites, et la situation est précaire pour de nombreux autres. Pour les clients des compagnies qui ont disparu, il a fallu basculer vers un autre fournisseur, et là, par contre, nouveau contrat, donc nouveau prix indexé sur le prix actuel de l'énergie et le tarif est plus élevé.
Richard, merci beaucoup. Richard Place avec nous depuis la Grande-Bretagne, direction la Norvège. Pourquoi la Norvège? Eh bien, vous allez comprendre. Bonsoir Frédéric Faux.
Bonsoir.
Alors Frédéric, on se souvient qu'on a beaucoup parlé de politique énergétique en Norvège ces derniers temps parce qu'il y a eu des élections à mi-septembre. La Norvège, c'est le pays du monde où on achète le plus de voitures électriques au nombre d'habitants. C'est le pays où plus de 90% de cette électricité est d'origine hydroélectrique, donc c'est propre. Mais la Norvège est aussi le premier producteur de gaz et de pétrole en Europe. Elle est assise sur un vrai tas d'or. Pendant la campagne électorale, il a été question de laisser ce pétrole dormir sous terre. Et puis, retournement de situation, en quelque sorte, tout désormais, Frédéric, est remis en question.
Oui, et ça montre toute la difficulté qu'on a à se passer des énergies fossiles, même dans un pays comme la Norvège, qu'on présente souvent comme un modèle, un pays à la forte tradition démocratique, où ce ne sont pas quelques oligarques qui décident de la politique énergétique. Mais voilà, le vote n'a pas eu les conséquences qu'on attendait.
Alors dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé exactement ?
Alors, vous avez évoqué ces élections en septembre. Mmh. Moi, j'étais alors à Oslo, dans la capitale norvégienne. Les sociaux-démocrates étaient les favoris, de loin. Et quand on discutait avec des militants verts ou de la gauche plus radicale, leurs alliés potentiels, voilà ce qu'on entendait.
Le pétrole, c'est un gros sujet en Norvège. Notre position, c'est qu'il faut arrêter la recherche de nouveaux gisements tout de suite, commencer à diminuer la production et commencer à créer des industries du futur qui respectent l'environnement. Ce grand changement vert doit se passer maintenant car la crise climatique est déjà là. Ce n'est pas pour dans 5 ou 10 ans, ça a déjà commencé.
Alors certes, les sociaux-démocrates ont gagné, ils ont chassé du pouvoir les conservateurs pro-pétrole qui étaient restés 8 ans, un record, mais ils ont préféré former leur nouveau gouvernement avec le parti du centre, un parti très fort dans les campagnes et pas très concerné par les questions environnementales.
Mais alors concrètement, est-ce que ça veut dire que ces idées de modération sur le pétrole, elles sont totalement oubliées ?
Ah ouais, complètement. En présentant sa politique énergétique, le nouveau Premier ministre norvégien a déclaré que le secteur du gaz et du pétrole allait être développé et pas démantelé. Mmh. Cela veut donc dire développer cette production qui atteint déjà 4 millions de barils d'équivalent pétrole par jour. On le sait peu, mais la Norvège est le 14e producteur mondial de brut et le 8e pour le gaz. Développer, cela veut dire aussi de nouveaux permis d'exploration, notamment en Arctique. On sait à quel point cette zone est sensible. C'est là où le changement climatique est le plus prononcé, avec une hausse des températures qui atteint déjà 3 degrés sur le dernier demi-siècle. La banquise fond, je ne vous l'apprends pas, mais c'est aussi une aubaine pour les producteurs d'énergie, car c'est là, dans la mer de Barents, tout au nord de la Norvège, que l'on cherche les nouveaux gisements de pétrole et de gaz.
Mais alors Frédéric, expliquez-nous ce choix, ou plutôt d'ailleurs ce non-choix, c'est-à-dire cette décision de ne pas changer de cap.
Eh bien, une fois de plus, les raisons sont économiques. Quand ce gouvernement a mis l'environnement et l'économie dans la balance, avec un secteur du pétrole qui représente 40% des exportations du pays, 14% de son PIB et des milliers d'emplois, eh bien, c'est l'économie qui a gagné. Cela reflète aussi les interrogations d'une grande partie des Norvégiens qui, sans être dans le lobby pro-pétrole, se posent des questions sur le futur. Je me souviens par exemple d'un électeur qui me disait « c'est quand même risqué d'éteindre la lumière et de voir ce qui va arriver ». Voilà, donc la fin du pétrole inquiète, car on ne sait pas encore ce qui va vraiment le remplacer.
Alors, c'est vraiment intéressant ce que vous nous dites. Moi, je voudrais finir quand même avec une déclaration récente du nouveau Premier ministre chez vous, qui dit qu'il faudra continuer à diminuer les émissions de carbone en accord avec les objectifs de l'accord de Paris. Comment ça va être possible, ce petit miracle-là, puisqu'on conserve le pétrole en l'état ?
Oui, alors c'est une astuce qui est utilisée par beaucoup de pays producteurs de pétrole. La Norvège va diminuer ses émissions parce qu'elle utilise de plus en plus de voitures électriques, parce qu'elle compte augmenter sa taxe carbone, parce qu'elle a même des plateformes pétrolières électriques reliées au continent avec un câble. Mmh. Mais dans ses émissions, la Norvège ne compte pas ces tonnes de CO2 qui viennent de tout son pétrole qui est exporté ailleurs et brûlé dans d'autres pays. Donc elle apparaît comme un pays vertueux alors qu'elle continue à pomper le carbone de son sous-sol et que ce carbone finit dans cette atmosphère que nous respirons tous.
Frédéric Faux en Norvège, merci beaucoup. Traversons la planète pour le troisième pays que nous allons visiter ce soir. Le troisième plus grand émetteur de CO2 au monde, c'est l'Inde. L'Inde qui a aussi la fièvre du solaire depuis plusieurs années. Le gouvernement mise énormément sur cette énergie pour sortir progressivement de sa dépendance au charbon. Vous allez voir que c'est pas gagné. Bonsoir Sébastien Farcy.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'Inde a donc installé, Sébastien, des panneaux solaires à grande vitesse.
Oui, le gouvernement de Narendra Modi a en effet pris cette mission du solaire à bras le corps et a déployé plusieurs outils pour décupler son utilisation. Le plus important, en fait, a été le lancement par la voie des distributeurs publics d'électricité d'appels d'offres pour la création de gigantesques parcs solaires, des parcs qui sont devenus aujourd'hui d'ailleurs parmi les plus grands du monde. Et le mécanisme pour y arriver est assez malin, car l'attribution de ces contrats se fait sous forme d'enchères inversées. Le gagnant est celui qui promet de fournir l'énergie au plus bas prix.
Et donc la réponse des fournisseurs a été bonne.
En effet, considérant la taille et le potentiel du marché indien, les fournisseurs du monde entier, dont des Français, se sont arrachés les contrats. Et cela a eu deux avantages. D'abord, la croissance rapide des capacités de production électrique par photovoltaïque, une capacité qui a été multipliée par 6 en 5 ans et qui est aujourd'hui de 45 gigawatts, ce qui fait de l'Inde le 5e producteur mondial de solaire. Et cette énergie représente environ 12% des capacités électriques indiennes. Deuxièmement, ces enchères inversées ont contribué à faire chuter les prix du solaire. Son coût est aujourd'hui à moins de 2 centimes d'euros le kilowattheure, ce qui en fait l'électricité la moins chère à produire en Inde, en tout cas pendant la journée et quand le soleil brille, bien sûr.
Le soleil, par ailleurs, est devenu maintenant une espèce de pierre angulaire de la diplomatie indienne.
Tout à fait, car l'un des trois grands engagements de l'Inde à la COP21 de Paris sur le climat est que 40% de ses capacités de génération électrique soient de sources non fossiles d'ici à 2030, un objectif qui est quasiment déjà rempli grâce à la forte progression du solaire dont nous avons parlé. Et l'Inde capitalise donc sur cette réussite. Le pays a cofondé en 2016 avec la France l'Alliance Solaire Internationale, qui est devenue la première organisation internationale basé en Inde et dont la mission principale est d'aider les pays situés sous les tropiques à développer cette énergie. Une manière pour l'Inde, en fait, de briller sur la scène mondiale et d'étendre aussi son influence internationale. Écoutez Ajay Mathur, il est le directeur général de l'Alliance Solaire Internationale et j'ai pu l'interviewer il y a quelques jours.
Je pense que la leçon que nous pouvons retenir est que même dans un pays en développement comme l'Inde, il est possible de faire du solaire l'électricité la moins chère, ou au moins quand le soleil brille, et peut-être demain quand il ne brille pas. Et nous disons aux autres pays, particulièrement à ceux d'Afrique, qu'il est possible de développer une coopération entre les pays du Sud pour y arriver.
Donc voilà pour la diplomatie du solaire, Sébastien. Mais ça ferait presque oublier que l'électricité en Inde, c'est surtout à base de charbon.
Et oui, largement en fait même. Les deux tiers de l'électricité indienne sont toujours produits à base de cette source très polluante. Et le pays n'a pas la volonté, ni certainement les moyens, de cesser sa dépendance au charbon. Car l'Inde est avant tout un pays en pleine croissance économique, où l'essentiel de la population vit encore de manière très modeste. Et on s'attend à une forte croissance de la consommation d'électricité dans les années à venir, quand ces ménages s'équiperont en climatiseurs ou en radiateurs. Pour soutenir cette croissance, l'Inde a besoin de toute l'énergie, du solaire certes, mais du charbon également. Et le charbon devrait demeurer la première source d'électricité pendant au moins 30 ans. Et cela n'est pas une bonne nouvelle pour le climat, car les centrales indiennes sont vétustes et émettent jusqu'à deux fois plus de dioxyde de carbone que leurs équivalentes européennes.
Sébastien Farcy en Inde, merci beaucoup de cet éclairage. Merci à vous trois. À très très vite, on change de pays dans un tout petit instant.
Le 18-20. Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
Parce que la suite ce soir, c'est le bruit du monde et ça se passe au Costa Rica qui, pour le coup, est considéré comme un modèle de protection de la nature, de protection de la biodiversité, l'état vert comme on l'appelle souvent. Pour le reste, il faut se battre et toujours se battre. Pour aller jusqu'à 20h, le bruit du monde sous les radars, c'est vous, Sébastien Legénie.
Nous irons en Israël où la communauté arabe se mobilise pour tenter d'endiguer une criminalité en pleine expansion. On appelle cela le mouvement Arab Lives Matter.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. Angélique Bouin, depuis le sommet européen en cours, on parlera prix de l'énergie, on parlera bien sûr crise avec la Pologne, mais il y a d'autres dossiers chauds dont nous parlera Angélique. Le monde d'après, c'est vous, Claude Guibal, bonsoir.
Bonsoir. Nous nous irons en Syrie où hier, un attentat et un bombardement sont venus brutalement rappeler à tout le monde que la guerre y était tout sauf finie.
Allez, à tout de suite. Le tour de la planète n'est pas fini, il passe par la Grande-Bretagne. Tiens, il y retourne avec Michael Kiwanuka, l'homme qu'on a comparé à Otis Redding, figurez-vous. On retourne à l'environnement juste après.
Une journée pour le climat. 10 jours avant la COP 26, sur France Inter.
Colors fool my brain as daylight fills my window. What a fool I was to sit and watch you go. Falling through my arms like whispers through my heartstrings. On and on.
Le bruit du monde est au Costa Rica et poursuit notre thématique 10 jours avant la COP26. Le Costa Rica, souvent présenté comme un modèle, un état vert, un champion de la biodiversité, de la protection de l'environnement. Et de fait, le Costa Rica, minuscule pays d'Amérique centrale, 51 000 mètres carrés, regorge de richesses naturelles. Et le droit de chaque citoyen à vivre dans un environnement sain est inscrit dans la Constitution. Ça ne veut pas dire que tout est simple et les militants de l'environnement se battent aujourd'hui pour préserver ce qui a été si bien protégé par les générations précédentes. Le reste, c'est Julie Pietri qui raconte.
Au cœur de la forêt tropicale, les arbres gigantesques, les fougères, les lianes, cachent paresseux, singes, pumas et jaguars. Mais ce sont surtout les insectes qui se donnent à voir et à entendre.
On les appelle grillons ou chicharras. Il y en a deux qui font ce bruit-là.
Gino Biamonte, biologiste de l'ONG de protection des forêts après Flofas, est notre guide au sein du parc national Braulio Carrillo.
Ces fleurs qui sont rouges et qui ont une forme allongée, comme un tube, c'est la spécialité de certains oiseaux qu'on appelle les colibris. La caractéristique la plus importante du Costa Rica, c'est que c'est un tout petit pays, avec deux côtes, très proches l'une de l'autre, et avec beaucoup de montagnes au milieu. Cela crée d'énormes variations de climat. Nous avons ici à peu près 4% de la biodiversité mondiale. Pour nous, les biologistes, c'est un trésor incroyable.
Pour protéger ce patrimoine, le Costa Rica a depuis les années 70 musclé sa législation. 25% du territoire est aujourd'hui classé et protégé par le SINAC, organisme de conservation de la nature au Costa Rica.
Hola.
Henri Ramirez Molina travaille au département biodiversité.
Effectivement, ce ne sont pas tous les pays du monde qui peuvent dire « je vais sacrifier 25% de mon territoire pour faire de la conservation et de la protection ». Disons que c'est une grande réussite.
Est-ce qu'il y a des menaces aujourd'hui sur ces parcs, sur ces forêts ?
Oui, bien sûr. Les menaces changent, mais elles sont toujours là. Il y a des gens, par exemple, qui ont besoin des espaces, des terres pour cultiver. Donc oui, c'est très difficile.
Et il suffit de prendre la route vers le sud, vers Los Santos, pour mesurer l'ampleur de cette menace. La région produit près de la moitié du café du Costa Rica. Et ici, certains cultivateurs puissants grignotent petit à petit une forêt classée.
Hola.
Hola. Elle et Paola.
Ok.
À bord d'une voiture tout-terrain, trois militants écologistes, Paola, Carl et Osvaldo, grimpent vers la montagne, escortés par plusieurs policiers.
Nous ne pouvons pas faire de déclaration.
Si ces policiers sont là, c'est à cause des menaces reçues par Carl, en particulier membre de l'ONG Kerkus.
Tout ça, c'était de la forêt il y a 10 ans. Ici, nous avons des espèces comme le magnolia, le chêne vert. Toutes ces espèces, comme vous pouvez le voir, ont été totalement coupées. Et peut-être que ce n'est pas évident pour vous, mais il y a une énorme quantité d'arbres secs. Ce cultivateur est arrivé et a tué les arbres en enlevant une partie de leur écorce, ce qui provoque un dessèchement progressif de l'arbre.
Norman.
Buenos días.
Lui, c'est Norman, un propriétaire qui cultive dans les règles. Et il pourra peut-être te raconter parce qu'il a été témoin de ce qui s'est passé avec la biodiversité après ce changement.
C'est dommage pour cette montagne. Il y avait tant d'animaux ici, des tapirs, des singes. Mais on n'en voit plus aucun. Il y a eu plusieurs plaintes, mais rien ne s'est passé. Ça fait mal parce qu'ici, c'était un paradis.
Gracias.
Un peu plus tard, Paola, de l'ONG locale Kerkus, elle aussi, sonne directement chez le propriétaire de ces terres ravagées.
On va l'appeler à la manière locale.
Claris.
Vous savez s'il est là ? Savez si est aquí ?
Non, non, c'est...
Le portail est immense, équipé de caméras de vidéosurveillance. Il y a du monde à l'intérieur, mais personne ne répondra. Deuxième tentative d'explication. Coup de fil à Maria Marin, maire de la municipalité de Dota, l'autorité locale.
C'est très inquiétant. Cependant, nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui cultivent le café de manière responsable. Et il y en a très peu qui ont provoqué des problèmes dans une partie de la montagne. Mais ces personnes sont dans un processus judiciaire en ce moment.
Madame Marie,
merci beaucoup, vraiment.
Hasta luego, gracias.
Osvaldo Duran, sociologue et membre de la Fédération écologiste du Costa Rica, n'est en fait pas du tout convaincu.
Elle interprète la loi comme ça lui plaît. Il y a eu deux décisions d'un tribunal supérieur du Costa Rica qui lui demandaient d'arracher le café planté illégalement. La municipalité de Dota l'a-t-elle fait ? Non.
Non.
Le café reste le troisième produit d'exportation du pays, après les bananes et les ananas. Des cultures qui requièrent d'énormes quantités de terre et affectent les forêts. Nous parlons de milliers d'hectares, mais les autorités ne veulent pas reconnaître que c'est un problème qui doit être stoppé.
Julie Pietri pour le reportage. Merci beaucoup. On y reviendra très régulièrement, bien sûr, à la COP26 dans Un jour dans le monde. En attendant, le bruit du monde quand il passe sous les radars est rattrapé au vol par Sébastien Logeni. Et nous sommes au nord d'Israël, à Oum el-Farein, une ville à moitié, à majorité arabe, rongée, Sébastien, par la violence depuis des années.
Une criminalité qui gangrène, oui, toutes les villes arabes israéliennes. Les chiffres, les statistiques de cette année sont encore édifiants. Plus d'une centaine de citoyens arabes israéliens tués dans des homicides depuis le mois de janvier, un record. C'est deux fois plus qu'en 2016 et il y a quatre fois plus de meurtres au sein de cette communauté que dans le reste de la population israélienne. On ne parle pas ici Fabienne, de Palestiniens tués par des soldats israéliens, comme en Cisjordanie, mais de meurtres intracommunautaires entre Arabes. Une criminalité endogène qui ne cesse d'augmenter au point qu'un mouvement de contestation sur les réseaux a fait récemment son apparition, suivi de plusieurs manifestations, le mouvement Arab Lives Matter, sur le modèle de Black Lives Matter.
Arab society is bleeding.
On entend ici la blogueuse du journal Haaretz qui est à l'origine de cette campagne virale lancée il y a quelques mois. Elle ne dénonce pas les violences policières comme aux États-Unis, mais au contraire l'absence de réelle présence policière dans les villes arabes israéliennes. Les crimes dans cette communauté y sont trois fois moins résolus que dans la communauté juive. Ces villes arabes sont en fait les oubliées des services publics depuis des décennies, sous-dotées en infrastructures, dévastées par le chômage et au bout des gangs qui tuent pour le trafic de drogue, de prostituées ou d'armes. Alors est-ce que c'est un signe que la mobilisation commence à payer ? Le gouvernement israélien a en tout cas dévoilé hier un plan provisoire mais encore très centré sur la sécurité avec notamment le renfort de l'armée et des services secrets du Shin Bet. Les Arabes israéliens, eux, demandent surtout des investissements sociaux sur la durée. Ils représentent 20% de la population israélienne mais se sentent toujours comme des citoyens de seconde zone.
Direction l'Égypte, Sébastien, où un drôle de robot vient d'être arrêté par les douaniers.
Ça s'est passé il y a 10 jours à l'aéroport du Caire. Les gardes frontières sont tombés sur un visiteur assez inhabituel, il faut le dire pour eux. Un robot invité dans le cadre d'une grande exposition d'art organisée par les autorités égyptiennes. Ce robot, vous le connaissez peut-être déjà, vous la connaissez peut-être. C'est Aïda, présenté il y a 2 ans par l'université d'Oxford comme le premier robot artiste au monde.
Hello, I am
Voilà, Aïda, que l'on entend ici avec sa voix robotique, faisait donc partie des artistes qui devaient présenter leurs œuvres en Égypte, mais elle a dû rester 10 jours détenue par les douanes égyptiennes pour problème de sécurité, car Aïda dispose d'un modem, et oui, mais aussi de caméras ultra sophistiquées dans les yeux qu'elle utilise pour peindre et dessiner. Les services de sécurité égyptiens ont préféré tout vérifier, il ne fallait pas qu'Aïda risque de se transformer en espion. On a bien failli frôler l'incident diplomatique entre le Caire et Londres, mais tout est rentré dans l'ordre. Aïda a été libérée hier sans aucune charge retenue contre elle. Elle doit se rendre aujourd'hui au pied des pyramides de Gizeh.
Très bien, allez, on finit par un jeu d'enfant devenu le week-end dernier une vraie compétition internationale.
Voilà, rassurez-vous Fabienne, pas question ici de Squid Game, mais d'un jeu bien plus inoffensif. J'ai nommé le jeu du ballon de baudruche. Ce petit ballon en plastique que l'on gonfle avec notre bouche, vous en souvenez, et qui fait la joie des enfants à leur anniversaire. On se le lance, on le pousse avec la main, l'index, et il ne faut jamais le faire tomber par terre. Eh bien, figurez-vous que ce jeu, qui a connu un succès fou pendant le Covid, confinement oblige, a connu aussi sa première Coupe du Monde en Espagne. Je vous laisse profiter des commentaires, ça vaut largement une Coupe du Monde de foot.
Voilà, c'est la folie littéralement sur le terrain. Alors que se passe-t-il ici? Le jeu se déroule dans une cage de verre de 8 mètres sur 8 avec des obstacles un peu partout pour pimenter l'affaire. Un canapé, des tables, des chaises et même une voiture. Les règles sont simples. Les deux joueurs casqués pour éviter les chocs avec les coins de table doivent toujours taper le ballon vers le haut, très important, avec le pied s'ils le veulent. Dès que le ballon en revanche tombe par terre, c'est point pour l'adversaire. La partie dure 5 minutes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? 32 pays se sont affrontés. Mm-hmm. C'est le Pérou qui l'a emporté. La France a été éliminée au premier tour. Mm-hmm. Et on ne désespère pas pour tout faire péter pour les JO.
Bah, évidemment. Y compris le ballon. Enfin, nous, on y joue très souvent dans le bureau. Ouais. On est très très bons. Allez, Sébastien, merci. Je peux vous faire de la peine, mais la vérité blesse. C'est ce que dit Lizzo. Voilà, truth hurts. Juste après, on parle d'Europe, comme tous les jeudis.
Bitch, I mean, who would wanna hide this? I will never, ever, 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 ever be your side chick. I put the singing single. Ain't worry about a ring on my finger. So you can tell your friend, shoot your shot when you see him. It's okay, he already in my DM. Why men great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend, set me down in the salon chair. Shampoo press, get you out of my hair. In a minute, I don't play tag, bitch. I've been it. We don't fuck with lies, we don't do goodbyes. We just keep it pushing, like, aye, aye, aye. I'ma hit you back in a minute. I don't play tag, bitch. I've been it. We don't fuck with lies, we don't do goodbyes. We just keep it pushing, like, aye, aye, aye.
Hertz et Lizzo sur France Inter, à la direction Bruxelles.
France Inter.
Je suis venu vous parler d'Europe.
The European Union.
Général.
Bonjour dans le monde.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes? Et Angélique Boin. Angélique, bonsoir.
Par Fabienne, bonsoir à tous.
Ah ben voilà, vous êtes là. Vous êtes dans le bâtiment du Conseil européen où se tient en ce moment un sommet des chefs d'État et de gouvernement. On vous réentendra d'ailleurs tout à l'heure dans le journal de 19h avec un programme de travail extrêmement bien chargé.
Oui, avec au-dessus de la pile le sujet qui fâche en ce moment la plupart des dirigeants européens, à savoir l'attitude de leur collègue polonais, le Premier ministre Mateusz Morawiecki, qui s'assoit en quelque sorte sur l'un des fondements de leur club, hein, la primauté du droit européen et l'indépendance de la justice. Et puis, gros sujet de débat également, la crise de l'énergie qui touche nombre de pays européens. Comment y répondre? Voilà les sujets chauds. Mais il y en a bien d'autres, Fabienne, mm-hmm. qui vont d'ailleurs sans doute passer sous les radars de la couverture médiatique, mais qui ne sont pas moins importants.
Et qui ne passeront pas donc sous les radars chez nous. Au premier rang, desquels, Angélique, encore la pandémie, le Covid?
Ah oui, pour une fois, et on s'en réjouit, ce n'est pas le principal sujet, me disait hier un diplomate, mais tout de même, les 27 chefs d'État et de gouvernement l'ont mis à l'ordre du jour avec une inquiétude. D'abord, la pandémie repart dans certains États, à l'Est en particulier. La Lettonie se reconfine, en Bulgarie, en Roumanie, le taux de mortalité reste très élevé. Les vaccins, en fait, ne sont pas disponibles partout et il faut redoubler d'efforts et s'attaquer à la désinformation sur les vaccins, peut-on lire.
J'espère que...
Les 27 vont aussi évoquer la nécessaire solidarité avec le reste du monde. Et puis, ces centaines de milliers de doses de vaccins que la Commission s'est engagée à donner aux pays des plus pauvres, eh bien, le compte n'y est pas.
Alors, on vous a perdu l'espace de 3 petites secondes, Angélique, c'est pour ça que j'ai eu peur. Mais la suite, c'est qu'on va pas beaucoup entendre parler, on va aussi beaucoup entendre parler autour du numérique sur lequel les 27 vont échanger. Un gros, gros morceau.
Oui, car on est très mobilisé en Europe sur le fameux pacte vert, cet engagement pris collectivement à verdir les économies des 27. Des dizaines de législations sont en cours de négociation, des milliards d'euros sont mobilisés, vous le savez, pour assurer la transition verte. Eh bien, c'est pareil en fait avec le numérique. Les Européens veulent mettre le paquet, ne veulent pas rater la prochaine révolution dans ce domaine. On a raté le premier train, celui des plateformes, Facebook, Twitter. Faut pas se laisser rafler par les Américains le prochain marché, celui qui s'ouvre notamment avec l'intelligence artificielle, les objets connecté de demain, c'est la croissance et des emplois. Il faut accélérer, mettre en route la machine à projet, résume une source européenne haut placée, et avancer sur l'établissement de normes communes européennes pour encadrer ce qui est encore un Far West numérique. Un gros travail préparatoire à ce sommet a déjà été abattu par les diplomates qui préparent toujours en amont, très en amont, ces rencontres à haut niveau des 27 dirigeants. On ne l'imagine pas, mais on a mobilisé beaucoup plus de cerveaux sur ce sujet du numérique que sur le problème de l'état de droit en Pologne, souligne sans cynisme. Il n'y a pas de cynisme, mais avec pas mal d'honnêteté finalement cette même source, parce que les enjeux économiques pour l'avenir de l'UE, sa souveraineté, son influence dans le monde, sont absolument considérables.
Alors ça c'est un sujet, on va dire, plutôt consensuel, Angélique. En revanche, demain matin, les 27 vont discuter du problème migratoire, et là c'est une autre paire de manches.
Oui, c'est le sujet qui fâche par excellence, qui divise beaucoup les 27. On l'a vu aussi à leur arrivée dans leur déclaration. Officiellement, au menu de ce sommet, on ne devait parler que des mesures à prendre pour soulager les pays d'origine des migrants et de transit. Les Européens ont prévu des aides financières pour aider certains pays de départ à lutter contre les passeurs. Ils ont prévu de l'argent aussi pour fixer les migrants dans les pays de transit. Mais la crise migratoire à la frontière de certains pays de l'Est s'est aussi invitée ici, avec le rôle trouble de la Biélorussie. Comment protéger les frontières extérieure de l'Union en respectant les droits des demandeurs d'asile. La Pologne, là encore, la Croatie sont accusés d'en refouler certains sans respecter les droits humains élémentaires. Là aussi, les discussions s'annoncent.
Les discussions s'annoncent serrées, c'est ce qu'on imagine que vous êtes en train de nous dire. Merci beaucoup, Angélique Boin, ça a coupé pile au moment où il fallait.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après, c'est avec vous, Claude Guibal. Vous êtes dans le studio, donc on a beaucoup moins peur. Et on va s'interroger sur l'avenir de la Syrie, secouée hier, Claude, par un attentat à Damas, un bombardement à Idlib. 10 ans après le début de la guerre, elle n'est pas finie alors.
Oui, on l'avait presque oublié, cette guerre à Damas, un peu comme un souvenir un peu lointain. Et c'est bien ce que la Syrie s'emploie d'ailleurs à faire, donner l'illusion que tout est fini, que tout est rentré dans l'ordre. C'est même ce qu'affirmait son représentant le mois dernier devant l'Assemblée Générale des Nations Unies, assurant que la situation était si stable désormais qu'elle permettait d'envisager le retour de ceux qui ont fui. Un message parfaitement entendu par le Danemark, par exemple, qui durcit sa politique migratoire et vient donc de révoquer les permis de séjour de dizaines de réfugiés syriens au motif qu'ils pouvaient rentrer chez eux en toute sécurité.
Donc en toute sécurité, c'est vraiment vite dit, même si la situation n'est plus tout à fait la même, évidemment.
Alors l'attentat d'hier, cette double bombe qui a explosé sur le passage d'un bus militaire et tué 14 soldats en plein Damas, est venu rappeler Fabienne que rien n'est terminé. Alors certes, c'est la première fois depuis 3 ans que la guerre revient se faire entendre en plein cœur de la capitale, mais il ne faut pas croire qu'elle s'était arrêtée ailleurs, cette guerre. Le gouvernement syrien ne contrôle que 70% du territoire. Dans le gouvernorat d'Idlib, où sont retranchées les dernières forces rebelles et les djihadistes, la guerre, elle continue avec ses bombardements réguliers, malgré le cessez-le-feu, pourtant négocié l'an dernier. Hier, une heure à peine après l'attentat de Damas, c'est un bombardement encore plus violent que les précédents qui a ensanglanté cette région. Des bombardements bombes sur un marché, des bombes qui ont tué 14 personnes, dont 7 écoliers. À Idlib, vous voyez Fabienne, la guerre ne s'est même jamais arrêtée.
Et d'ailleurs, cet attentat et ce bombardement n'ont pas provoqué de réaction.
Oui, on dirait que la communauté internationale regarde ailleurs et ne remarque pas, finalement, la politique de normalisation qui se met en place. Au sein de la Ligue arabe, Bachar al-Assad n'est plus le paria qu'il était hier. Les Émirats, le Bahreïn, le Koweït ont rouvert leurs ambassades. La semaine dernière, le roi Abdallah de Jordanie et Bachar al-Assad se sont parlé pour la première fois depuis 10 ans. La Jordanie a rouvert sa frontière avec la Syrie. Il faut que le commerce reprenne, nous explique-t-on. Et au-delà du monde arabe, certains États, comme la Grèce, ont eux aussi rouvert leurs représentations. Quant aux États-Unis, très en retrait sur ce dossier syrien, ils sont très silencieux. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a même dû se démarquer en assurant que non, les États-Unis ne soutiennent pas la normalisation. La preuve, ils n'ont pas levé leurs sanctions et ils restent opposés à tout soutien à la reconstruction tant qu'il n'y aura pas de progrès irréversible.
Et Bachar al-Assad, est-ce qu'il a donné des signes dans ce sens, Claude ?
En tout cas, il y a évidemment des effets d'annonce. Sous l'égide des Nations Unies, le gouvernement et l'opposition viennent par exemple de s'accorder pour élaborer une nouvelle constitution, une avancée rendue possible sous la pression de Moscou, Moscou allié de Bachar al-Assad. Moscou qui a d'autres chats à fouetter que la Syrie en ce moment et voudrait bien que la situation s'y stabilise. Par ailleurs, Bachar al-Assad cherche à sortir son pays de l'isolement pour le rendre fréquentable pour les investisseurs étrangers et permettre la reprise de l'économie. Et pour ce retour en grâce, eh bien il a un levier, les millions de réfugiés syriens à travers l'Europe, des migrants dont le retour au pays soulagerait sans qu'il ne l'avoue publiquement de nombreux États prêts à s'asseoir sur les conditions du retour de ces migrants. Alors Bachar al-Assad, eh bien il promet, il jure qu'il n'arrivera rien à ces réfugiés, qu'ils ne seront pas inquiétés. Des mensonges, alerte l'ONG Human Rights Watch dans un rapport publié la semaine dernière. Elle rapporte torture, exécution extrajudiciaire, arrestation de Syriens tout juste revenus au pays. Rien n'a changé, dit Human Rights Watch. Rien n'a changé et la guerre est-elle tout sauf terminée.
Merci beaucoup Claude Guibal et Le Monde d'après tous les soirs dans Un jour dans le monde. Le 18-20, la suite c'est le journal d'Hélène Philly et puis le téléphone sonne juste après. Merci de passer la soirée avec nous et à tout de suite.